Alors je vais déjà reprier pour remettre ce culte et aussi le message de ce matin. Oui Seigneur, je te remercie encore Seigneur, vraiment, parce que tu es parmi nous Seigneur. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que ton sang a coulé pour nous. Merci parce qu'aujourd'hui nous savons Seigneur, nous le croyons Seigneur, oui, que nous avons une place, que tu es là, que tu nous prépares une place à tes côtés Seigneur et que tu vas revenir nous chercher aussi Seigneur. Et que bientôt Seigneur, oui, bientôt, Seigneur, nous vivrons dans ta joie, Seigneur, éternelle, dans ton amour éternel, Seigneur. Et vraiment, je veux te remercier, Seigneur, vraiment pour cet immense amour. Amen. Alors, le thème de ce matin, il m'est venu de ce livre, peut-être que certains le connaissent, qui est le Nouveau Catéchisme pour la Cité, qui en fait une version adaptée du catéchisme de... Alors, il y en a plusieurs, donc c'est le catéchisme de Genève de Calvin, le petit et grand catéchisme de Westminster et du catéchisme de Heidelberg. Alors c'est quand on dit catéchisme, souvent, premier réflexe, c'est on pense catholique, au mot catholique. Mais en réalité, il faut avoir en tête qu'un catéchisme, c'est un recueil de questions-réponses qui a notamment deux objectifs importants ou majeurs qui sont expliquer clairement ce qu'est l'Évangile, tout en établissant les fondements de la bonne nouvelle, comme les doctrines bibliques qui sont relatives à Dieu, qui sont relatives à la nature humaine, au péché. Et un deuxième objectif qui est de combattre aussi les erreurs, les fausses croyances, qui sont souvent liées à une époque ou une culture, parce qu'on a vite fait, il faut l'avouer aussi, de parfois déformer un peu ou dévier de la vérité vraiment biblique. Et alors, ce petit catéchisme présente, par exemple là, 52 questions, une par semaine, qui est divisé en trois parties. Il nous parle d'abord de Dieu, la création, la chute et la loi. Deuxième partie qui va plus aborder Christ, la rédemption, la grâce. Et ensuite Christ, la restauration, la croissance dans la grâce. Alors pourquoi je vous parle de ce livre? C'est parce que depuis le confinement, notamment lors de nos cultes du dimanche en famille, on avait commencé pendant le confinement, on avait pris l'habitude justement de poser aux enfants une question issue de ce livre. Alors cette idée, on ne l'a pas... nous est pas venu comme ça, hein. C'est une idée qu'on a repris d'une église pendant le culte, le pasteur justement, c'est un pasteur qu'on suit parfois sur internet, en fait, prenait régulièrement une question justement de ce livre et on trouvait que c'était intéressant comme moyen d'aborder aussi l'évangile avec les enfants. Mais je dis aux enfants, mais au final c'est aussi intéressant pour nous adultes parce que bien souvent ça nous rappelle aussi justement ce qu'est la vérité, aussi les fondements importants qu'il ne faut pas oublier. Et donc ce matin, le thème, c'est quoi? C'est en fait la question numéro 17 de ce petit livre qui nous pose cette question. Alors, je vais faire comme on faisait pendant les vacances. Donc les enfants, écoutez bien, c'est vous qui allez devoir répondre en premier à cette question. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Qu'est-ce que être idolâtre? Voilà, qu'est-ce que l'idolâtrie? Donc s'il y a un ou deux... Théo, il a l'habitude après de ce mode de fonctionnement... Mais donc, vas-y Théo. Alors parle bien fort. Hein. Alors, quand on adore un autre Dieu, un faux Dieu, un autre Dieu que Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre enfant qui a une proposition à faire sur ce qu'est une idole, sur ce qu'est l'idolâtrie? Alors c'est un mot qui peut être peut-être idolâtrie, pas très facile au départ hein, pour les enfants, qu'on n'entend pas souvent. Alors, la réponse qui nous est proposée, c'est l'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au créateur, pour ce qui concerne nos espoirs, notre bonheur, notre identité et notre sécurité. Donc, dit autrement, c'est que c'est l'idolâtrie, ça veut dire aimer quelque chose plus que Dieu. Donc ça rejoint la définition que Théo aussi a pu donner. C'est considérer quelque chose comme plus important que Jésus, pour donner donc un sens à notre vie, pour nous procurer de l'espoir, du bonheur ou la sécurité. Alors, il y a aussi toujours deux versets qui sont donnés en référence, ou en tout cas qui font écho justement à cette définition qui est proposée. Et donc là, c'est Romains chapitre 1, verset 21, et le verset 25, donc je vais les lier. « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. » Alors un autre verset, là je vais laisser le petit catéchisme de côté, nous dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Alors cette recommandation, c'est en fait le dernier verset de la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 21. Alors qui est concerné par ce verset ? Les petits enfants. Alors je me suis adressé aux enfants là pour l'instant. Il faut bien avoir conscience que là, les petits enfants, ce n'est pas juste ceux qui sont jeunes en âge, mais c'est bien nous tous ici présents, et donc nous tous qui sommes enfants de Dieu. Et alors pourquoi nous est-il dit ici d'être vigilants, de nous garder des idoles ? Alors Jean le dit parce qu'il veut faire tout ce qu'il peut pour que les croyants ne se détournent pas justement du vrai Dieu, dont il rappelle d'ailleurs qui il est dans le verset 20 qui précède, qui nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Alors oui, à la fin de cette épître, Jean y met l'accent sur ce qui est le seul vrai Dieu. Et il veut nous faire comprendre que tout le reste, au final, n'est qu'idole. Maintenant, pour pouvoir suivre ce qu'ils nous ont demandé, pour pouvoir se garder de quelque chose, c'est important déjà justement de bien comprendre de quoi on parle, mais aussi de réaliser que cela nous concerne tous pleinement. Et alors ce matin, justement, c'est ce que je vous propose de faire, c'est d'approfondir ce thème de l'idolâtrie et justement la définition aussi de ce qu'est une idole. Alors je reprends la question posée aux enfants, hein, qu'est-ce que l'idolâtrie ? Nouvelle petite question, qui peut me citer le premier commandement de la loi qu'on trouve dans Exode, chapitre 20 ? Alors je vais attendre deux secondes parce que c'était les toutes premières questions du petit catéchisme, donc je sais que mes enfants le savent. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait ? Le premier commandement. Ah, merci, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième ? Voilà, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dès le début, Dieu nous rappelle que lui seul est Dieu. Dès le début, il nous rappelle qu'il est notre Créateur, qu'il nous a donné la vie. Alors la conséquence, déjà tout de suite, c'est quoi ? C'est que notre loyauté doit lui revenir. Que ce soit notre amour, notre obéissance, notre adoration. Et c'est ce qu'il demande au final aussi dans ces deux commandements. Mais je parle de loyauté, mais si on regarde même plus attentivement ces commandements, on voit que c'est même plus que de la loyauté. La loyauté, ça veut dire qu'on est fidèle dans l'engagement. Là, ce que Dieu demande, c'est plus que cela, il demande l'exclusivité. Il veut que notre adoration entière lui soit exclusive. Ésaïe, chapitre 42, verset 8, dit aussi « Je suis l'Éternel ». C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors c'est écrit aussi que Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu qui veut que notre cœur lui appartienne à lui seul. Alors ce terme, un Dieu jaloux, ça peut parfois, ça peut choquer, ça peut interpeller. Parce que quand on pense au fait d'être jaloux, c'est le fait d'envier quelqu'un qui a quelque chose que l'on n'a pas. En général, c'est cette définition-là qu'on a au mot jaloux. Ici, ce n'est pas cette définition. Il y a une différence. Dieu est un Dieu jaloux parce que quelque chose qui lui revient de droit, qui lui appartient, est donné à quelqu'un d'autre. Il n'envie pas ce qui appartient à un autre. Ce qu'il veut, c'est que en fait, ce qui lui revient de droit lui soit restitué et lui revienne vraiment. La louange, l'honneur, l'adoration reviennent à Dieu seul, car lui seul aussi en est vraiment digne. Et cette jalousie-là, ce Dieu, ce n'est pas un péché. l'autre oui, pas quand on parle du Dieu jaloux. Le péché, justement, c'est d'adorer ou de servir qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que Dieu. Et c'est justement la première définition aussi qui nous est donnée par le Seigneur sur l'idolâtrie, sur les idoles. Une idole, c'est toute chose envers laquelle notre adoration est dirigée au lieu d'aller vers le Seigneur. Alors le second commandement parle de représentation, d'image taillée, quelque sorte de statue, souvent en bois, souvent en pierre. Mais si on écoute aussi le Seigneur Jésus qui reprend ce commandement, qui dit dans Matthieu 4,10, on le voit aussi dans le désert, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Il faut vraiment comprendre que adorer autre chose que Dieu, donc l'idolâtrie, c'est différent de juste adorer une statue. Une idole, c'est au final tout ce qui se substitue à la foi véritable. Une idole, c'est tout ce qui prive Dieu de sa pleine divinité et de sa pleine humanité. Une idole, c'est toute idée humaine qui prétend prévaloir sur l'autorité de la Bible. Une idole, c'est toute loyauté donc qui prend la place de Dieu au centre de notre vie. Et si on réunit tout ça, au final, l'idolâtrie, en réalité, c'est quoi ? C'est un problème de cœur. Une idole, c'est ce qui va occuper notre attention, nos pensées, notre amour. Et donc, ce qui peut être une idole, c'est bien plus large que juste des statues et qu'on se compense et que ce que l'on pense souvent. Martin Luther a dit un jour ceci : que signifie avoir un Dieu ? Un Dieu, c'est tout ce vers quoi nous nous tournons afin d'obtenir toute bonne chose ainsi qu'un secours dans tous nos besoins. Alors, il parle de nos besoins. Mais si on y réfléchit encore, qui m'a créé ? Qui connaît mes besoins avant même d'ailleurs qu'ils soient là ? Mes vrais besoins donc. Une autre question, c'est à qui nous adressons-nous justement pour nos besoins ? À qui nous adressons-nous dans les bons jours, mais aussi dans les mauvais jours ? C'est important de se poser cette double question dans les bons comme dans les mauvais, parce que notre attitude n'est pas la même. Dans les bons jours, nos idoles souvent subsistent. Elles nous donnent même l'impression de répondre justement à nos attentes. L'avenir va se présenter même peut-être plein de charme, et on va attendre tout, voilà, l'avenir sans inquiétude. Mais voilà, un jour, les mauvais jours arrivent. Et alors, où sont nos idoles ? Pourquoi ne font-elles ou ne peuvent-elles plus rien faire pour nous ? Oui, seul Dieu peut combler nos besoins et vos besoins. Nos idoles ne se soucient pas de nous. Il faut vraiment avoir en tête que une idole, une relation avec une idole, c'est une relation unidirectionnelle, il n'y a pas de retour. Une idole ne peut pas nous entendre, nous écouter, nous parler. Alors, on va encore une fois, si je dis ça, plus penser au statut, mais c'est valable vraiment pour toutes les idoles. Dans les psaumes, chapitre 115, versets 3 à 7, on peut lire aussi, justement, « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. » Sur la même idée, on peut lire aussi dans Ésaïe chapitre 46, versets 6 et 7. Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils se prosternent et adorent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Alors si ce matin j'insiste sur cette définition de l'idolâtrie, c'est que c'est vraiment quelque chose d'important. Les idoles nous éloignent de Dieu. Tout ce qui est à la place de Dieu nous détourne de lui. Et c'est important aussi de le comprendre et de l'avoir en tête, parce que si on n'y prend pas garde, justement, l'idolâtrie va nous emmener toujours de plus en plus loin, sans même parfois qu'on s'en rende compte. vais prendre un commentaire d'un notre pasteur théologien qui est Timothy Keller, que peut-être certains connaissent, qui a pu partager dans un de ses livres aussi. Il est indispensable de comprendre ce qu'est l'idolâtrie. En effet, elle peut se développer dans un domaine de notre vie pendant longtemps et y prendre racine toujours plus profondément, sans pour autant nous conduire immédiatement à transgresser la loi de Dieu de manière visible et évidente. Cela peut empêcher le développement en moi d'un cœur aimant ainsi que du fruit de l'esprit. Il prend dans la suite du commentaire un exemple qui est la carrière d'une personne. Il dit « Si ma carrière devient trop importante pour moi, cela peut un peu à la fois m'amener à travailler trop. » Et donc là, on voit bien qu'on commence à mettre la priorité, le travail au centre. Conséquence, cela peut m'épuiser. Cela peut détériorer mes relations, nuire à ma vie de famille, à mes amitiés. Et tout cela peut durer pendant des années, jusqu'à finalement m'entraîner dans le mensonge, la tromperie, l'adultère. Oui, l'idolâtrie peut conduire à tout cela. Je vais aller même jusqu'à la fin du commentaire où il nous dit « Il est donc très important de comprendre que pécher ne veut pas seulement dire faire de mauvaises choses. Pécher, c'est transformer de bonnes choses en choses essentielles et suprêmes. Cela détruit notre âme, détruit la communauté et déshonore Dieu. » Alors avec ce commentaire, on voit bien aussi comment justement l'idolâtrie nous éloigne progressivement parfois de Dieu. C'est souvent subtil. On voit bien aussi que l'idolâtrie, en plus d'être un péché, elle nous entraîne vers d'autres péchés. En plus d'offenser Dieu, elle nous emmène toujours plus loin de Dieu. Et où ? Inexorablement vers la mort. Alors ce matin, je vous pose déjà cette question aussi. L'Éternel est-il votre Dieu ? Et frères et sœurs, vraiment, je vous invite en tout cas à sonder votre cœur de manière honnête. Ce n'est pas facile. Mais c'est vraiment important de le faire. Et si avec tout ce que je dis là, ce que j'ai déjà pu partager, vous peut-être n'êtes toujours pas sûr d'être concerné par l'idolâtrie, parce qu'encore une fois, on ne voit pas de statut ici, et c'est souvent à ça qu'on pense. Si vous n'êtes pas sûr d'être idolâtre, je vous invite aussi à relire l'histoire du jeune homme riche qu'on peut trouver dans Matthieu chapitre 19. Ce jeune homme riche, je ne vais pas le lire là, parce que ça serait un peu trop long, mais il vient vers Jésus pour savoir comment avoir la vie éternelle. Alors un premier bon point pour lui, c'est quand même qu'il pose la question à Jésus. Il sait au final, en tout cas je pense qu'il le sent et qu'il le sait, qu'il n'y a que Jésus qui peut lui apporter la bonne réponse. Un deuxième, si on peut dire, bon point pour cet homme, pour ce jeune homme, c'est qu'on peut voir que c'est un homme qui obéit au final à quand même plusieurs des commandements de Dieu, ce qui est très bien aussi. Maintenant, quand Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Qu'est-ce qui se passe alors dans ce récit qui nous est rapporté ? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On voit où son cœur, ce qui retient son cœur et ce qui empêche vraiment qu'il puisse venir au Seigneur. Et alors oui, si vous ne vous croyez pas idolâtre, je n'accuse personne à l'intention, mais c'est important vraiment de se rendre compte qu'on l'est tous. Ben, posez-vous, demandez-vous, est-ce que je suis prêt à tout abandonner pour suivre Jésus ? À renoncer à tout pour lui plaire ? C'est vraiment pas facile comme question. Ça peut impliquer des choix, des décisions. Matthieu 22, chapitre 22, verset 37-38, nous dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Alors est-ce que ce commandement justement se reflète dans notre vie ? Avons-nous une vie centrée sur Dieu ? Est-il au centre de nos priorités ? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Un autre point auquel il faut vraiment prendre conscience, c'est que l'idolâtrie n'est pas quelque chose de superficiel, que Dieu considère comme superficiel. Il y a des conséquences vraiment à adorer quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. Une première conséquence, on pourrait dire, c'est qu'on ressemble à ce qu'on adore. C'est le titre d'ailleurs d'un livre d'un théologien qui s'appelle Grégory Bill. Alors, la quatrième de couverture, justement, je l'ai reprise, elle nous dit « On finit par ressembler à ce que l'on adore, car notre adoration est un attachement. Attachement au Seigneur ou à l'idole. L'idolâtrie devient comme l'idole qu'il révère. L'idolâtre devient comme l'idole qu'il révère. Incapable de voir et d'entendre, anesthésié spirituellement, insensible aux réalités spirituelles. » Et il y a deux versets dans la Bible qui nous confirment aussi cela. Un premier qui est dans Osée au chapitre 9, verset 10. « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » Ou encore le psaume 115, verset 8. « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » On parle bien des idoles dans ce psaume. Alors oui, à qui avez-vous envie de ressembler ? À Jésus ? À autre chose ? Une deuxième conséquence, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, selon mon frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Alors c'est un verset qui est difficile à appliquer. Mais oui, si un chrétien a son cœur qui n'est pas centré sur Jésus, qui ne veut pas le changer, eh ben, il va finir seul. En tout cas, ce qui nous est demandé, c'est vraiment une exclusion de toute relation avec d'autres frères et sœurs qui sont idolâtres. C'est ce qui peut nous attendre si notre adoration va à autre chose qu'à Dieu. Et là, je parle de relations entre hommes, de relations terrestres, mais qu'en est-il de notre relation avec Dieu lui-même ? Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La colère de Dieu envers l'idolâtre est fatale. C'est la mort. La séparation éternelle d'avec Dieu. Alors oui, ce matin, et pour votre vie, comment voulez-vous vivre cela, cette séparation éternelle d'avec Dieu? Alors pour poursuivre, je vais essayer de prendre quelques exemples un peu plus concrets, justement, d'idolâtrie. Et aussi, parfois, je ne vais pas être exhaustif, mais aussi pour montrer ce que ça peut amener à faire ou à vivre. Je vais commencer par quelques exemples spirituels. On entend souvent « Mon Dieu est comme ça, mon Dieu est comme ceci ». Parce qu'il faut se rendre compte que si mon Dieu n'est pas celui de la parole de Dieu, ce qui est le cas quand on ne retient qu'une partie ou la partie qui nous intéresse de Dieu, c'est une idole. C'est-à-dire que ces faux concepts sont des idoles. Parce que notre Dieu n'est plus alors encore une fois celui de la Bible. Un autre exemple, c'est que tout ce qu'on ajoute à l'adoration de Dieu, les statues donc, les icônes, ça peut être des reliques, mais aussi tous les intermédiaires entre nous et Dieu, tout cela va amener à une fausse relation avec Dieu. Chaque fois qu'on pense que pour rencontrer Dieu, pour être dans sa présence, on a besoin que telle chose soit présente, ça peut être même la musique peut-être pour certains, si cette chose, justement, est autre chose que Jésus, que son esprit, c'est de l'idolâtrie. L'Église elle-même, ça peut peut-être surprendre, mais l'organisation de l'Église, ça peut devenir l'objet de notre confiance. On y va pour passer un bon moment, on n'y va peut-être plus pour le Seigneur. Justement, il faut faire attention parce que même des bonnes choses peuvent devenir des idoles. Si je viens maintenant un peu plus dans la vie courante, donc j'ai parlé tout à l'heure de nos ambitions, de la carrière. Et c'est que ça amène en général à passer de plus en plus de temps au travail, si on est carriériste. Notre aspiration va passer devant Dieu. Le temps qu'on va laisser à Dieu va être vraiment de plus en plus petit. Dieu ne sera plus notre priorité. Ça peut encore une fois nous amener donc à mentir, à adopter un comportement méchant avec d'autres. Personnellement, je peux en témoigner le nombre de fois où je peux voir des collègues effectivement qui vont écraser d'autres collègues pour prendre la place, qui peuvent s'attribuer un travail qui n'est pas le leur, qui vont critiquer. Et je dois l'avouer, c'est malheureusement facile de tomber aussi soi-même dans la critique, aussi, de participer parfois sans peut-être le vouloir au départ, mais on ne s'en rend pas bien compte, on est entraîné. Tout cela, c'est des choses que vraiment l'idolâtrie du travail, le travail qui devient l'idole, va nous amener à faire. Il faut aussi penser que si le travail devient notre tout, on va commencer aussi, si on a une famille, à la négliger. Cette famille que Dieu nous a donnée, nous a confiée. On va être absent. Et qui va alors, par exemple, enseigner les enfants, justement, comme Dieu nous le demande, ce qui est important, on le voit aussi dans ce monde. Et ça, c'est valable pour les pères, pour les mères, pour tout le monde. Et la carrière, c'est souvent aussi lié aux richesses, à la poursuite du confort. Matthieu chapitre 6, verset 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Il faut quand même avouer que le confort, on l'apprécie tous. Hein. Je pense que personne ne va vouloir vivre complètement sans confort. Mais ça ne doit pas devenir l'objet de notre vie. Il faut même faire attention parce que ça peut nous mener à la complaisance. On va s'occuper de moins en moins de ce qui se passe autour, dans l'Église, dans le monde. Peu importe en fait ce qui arrive, tant que ma vie reste confortable. Et dans le confort, on peut penser aussi à nos smartphones. Quelle place ont-ils pris aujourd'hui ? On n'est plus capable de sortir sans. Je sais que quand on va se promener, à chaque fois, je dis « Est-ce qu'on a notre téléphone ?» Oui, non. C'est souvent la première chose qu'on regarde le matin en se levant. Souvent la dernière qu'on regarde en se couchant. Alors, est-ce qu'on donne autant d'importance et de temps à notre Bible ? Je ne vais pas le faire, parce que j'en aurais peut-être honte aussi. Il y a une application qui s'appelle « Temps d'écran » dans mon téléphone, qui donne le temps moyen par jour. Je pense que si je le fais, on est très loin du temps que je passe, personnellement, en tout cas en lecture de la Bible. Nos loisirs aussi, le sport, la musique, le jardinage, la pêche, la chasse. La pensée du monde, c'est simple, c'est faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et le problème de toutes ces activités, qui en soi d'ailleurs ne sont pas mauvaises, bien évidemment on peut faire du sport, on peut faire de la musique, on peut aller pêcher, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ces activités peuvent facilement nous faire manquer l'adoration de Dieu, elles vont nous empêcher peut-être de le servir pleinement. Un exemple du sport, c'est que souvent, quand on veut faire un petit peu de compétition, c'est le dimanche, dans beaucoup de sports en tout cas. Alors la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Jésus-Christ crucifié, pour moi ? Ou aller justement m'amuser ou faire cette compétition, pour au final peut-être ma propre gloire ? Mais c'est pas facile, encore une fois, on ne s'en rend pas toujours compte. Je fais un peu de sport. Ma femme peut en témoigner, et merci au Seigneur parce qu'elle est là. J'aurais personnellement tendance parfois à me dire, allez, un dimanche comme ça, exceptionnellement, aller faire une petite compétition de badminton, pourquoi pas. C'est pas très grave, Il y aurait 51 des dimanches. Sauf que le problème, c'est qu'on va aller à un dimanche, on va aller à un deuxième, parce que dans 3 mois, c'est pas grave non plus, un deuxième dimanche. Et ainsi de suite. Et au final, ben, un peu à la fois, justement, ce sport devient important. Trop important. Et ça vient vite. Une autre idole, les grandes de ce monde. Que ce soit une star, que ce soit un leader politique. Souvent, on va les regarder comme des sauveurs, comme ceux qui réussissent, comme ceux qui ont toutes les réponses. On va même penser qu'on compte pour eux. Sauf qu'en réalité, on est toujours déçus un jour. Ce ne sont que des hommes, des femmes qui sont pécheurs eux aussi, qui ne nous connaissent pas au final et qui ne peuvent pas justement savoir de quoi nous avons besoin. Ils ne peuvent pas y répondre. Alors que Jésus le sait, et Jésus peut répondre à nos besoins. Nos relations et nos amis aussi. Tout tourne parfois autour d'eux, encore plus peut-être pour les jeunes, quand on est jeune. On a envie de sortir, on veut s'amuser, on veut plaire, on ne veut pas être mis de côté. Au final, ça correspond à quoi ? C'est qu'on va finir par craindre l'homme et davantage les hommes que Dieu. Sans parler peut-être de l'alcool, donc des fêtes dans toute la nuit. On va enchaîner parce qu'elles vont nous procurer peut-être une sensation de bonheur, en tout cas de bien-être aussi, mais au final qui n'est rien d'autre qu'un bonheur éphémère. Et encore nous-mêmes, justement, que dire de nous-mêmes ? Le monde actuel, c'est le monde de l'auto-idolâtrie. On veut être comme Dieu, voire même au-dessus de Dieu. On veut faire nos propres choix dans tous les domaines. On veut faire sans Dieu. On veut être beau. On veut faire attention à notre apparence. Sauf que faire attention et faire de son état physique justement une priorité, ça nous empêche aussi de nous préoccuper justement de l'état de notre âme, de notre cœur. Notre soi intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants de méditation qui vont nous pousser à rechercher non pas en Dieu, mais en soi, notre bonheur, voire même la lumière à partager aux autres. Et ça montre bien justement notre tendance à adorer la créature, à aller dans la créature plutôt que vers le créateur. Et ça nous montre aussi bien pourquoi Dieu nous demande au final de mourir à nous-mêmes pour pouvoir le suivre. Je vais revenir une minute aussi vers les enfants. Il faut avoir en tête les enfants que préférer regarder la télévision, peut-être que plutôt qu'avoir un temps de louange, plutôt que prier, que lire sa Bible. Ça signifie que la télévision devient une idole. Sans parler des jeux vidéo. Là, je pense que le nombre d'heures qui sont passées devant, c'est aussi très important. Ça peut devenir une drogue. Moi, j'ai déjà des collègues qui m'ont déjà dit « Je ne peux pas interdire, on ne peut pas diminuer aux enfants. » Après, ils deviennent agressifs. C'est peut-être qu'il y a un souci, justement. C'est comme si ces enfants sont en manque si on les prive de ce jeu vidéo. Il y a un camarade, je crois, de Théo, d'ailleurs, qui, pendant le confinement, avait envoyé un mail à tous les élèves de la classe, pour le coup, lui, pour dire « J'ai décidé d'arrêter de jouer à Fortnite », qui était un jeu vidéo qui est vraiment très prisé par les jeunes. Parce qu'il s'est rendu compte du temps qu'il passait dessus, de l'effet que ça faisait sur lui, et il invitait justement tous ses camarades à arrêter. Et pour le coup, c'est merci Seigneur hein, de aussi faire réaliser à certains enfants justement le poids de ces jeux vidéo et l'importance de ces jeux vidéo dans leur vie. Je vais prendre un autre exemple aussi, on y arrive bientôt, mais les cadeaux de Noël. Noël, c'est plutôt censé être là pour nous rappeler la naissance de Jésus, le fait qu'il est venu jusqu'à nous, parce qu'il savait justement qu'on avait besoin d'être sauvés, mais il y a les cadeaux de Noël, qui sont quand même bien plus importants. En tout cas, c'est pour beaucoup d'enfants. Alors sur vos petites feuilles, ce que je vous invite aussi à faire ce matin, les enfants peut-être, si vous le voulez, c'est justement d'écrire ou de dessiner votre objet préféré, l'activité qui prend beaucoup de place dans votre vie. Et après, ce que je vous propose aussi, c'est, quand vous serez rentré à la maison, d'échanger là-dessus avec papa et maman, de leur expliquer pourquoi cet objet est important, pourquoi cette activité est importante, pourquoi elle est peut-être plus importante pour vous, en tout cas, ça vous semble plus important que de passer du temps avec Dieu. Alors avec cette liste qui n'est vraiment pas exhaustive, ce qu'il faut comprendre et ce que j'aimerais que vous compreniez ce matin, avec tous ces exemples aussi, c'est que vraiment on est tous coupables d'idolâtrie. Il faut vraiment être honnête là-dessus. Il y a Calvin aussi qui a dit « Chacun de nous est un expert dans l'invention d'idoles. Le cœur humain ou la nature humaine est une fabrique continuelle d'idoles. » Alors je vais terminer en revenant sur le verset de 1 Jean 5, verset 21, avec cette question « Comment se garder justement des idoles ?» Gardez-vous des idoles. Oui, Dieu vous demande de vous garder des idoles par l'intermédiaire de Jean. Le « vous », c'est bien, vous devez le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire pour vous. C'est à vous, c'est à moi d'adopter une attitude dans laquelle on se dit « je dois être sur mes gardes, je dois garder mon cœur ». On ne doit pas tomber dans l'insouciance, ça ne suffit pas d'avoir compris ce qu'est l'idolâtrie, de connaître la définition pour s'en protéger. Le repos sera possible quand on sera au ciel. Mais aujourd'hui, on est dans un temps où il nous faut combattre, où il nous faut justement garder notre cœur par rapport à tout ce qui nous est proposé aussi. Alors avec nos propres forces, bien évidemment non. Pour pouvoir adopter cette attitude, pour pouvoir se garder des idoles, nous avons besoin de miséricorde et on a besoin de changer. Et pour y arriver, il nous faut quoi ? Il nous faut d'abord, encore une fois, nous rappeler que l'on est pécheur. Nous rappeler que la tendance de notre cœur est de tomber facilement justement dans l'idolâtrie, de se tourner vers le mal. Parce qu'encore une fois, si on ne réalise pas ça, pourquoi vouloir changer ? Pourquoi vouloir se garder des idoles ? On n'est pas concerné sinon. Mais il faut aussi se rappeler ensuite que nous sommes enfants de Dieu, aimés par Jésus-Christ. Jésus qui nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça c'est 1 Jean 4. Verset 19. Jésus qui n'a jamais commis l'idolâtrie et qui l'a pourtant expié pour nous, il a versé son sang pour nous. Jésus qui n'en a jamais eu assez de nos doutes, de nos erreurs, de nos fautes, qui nous a jamais abandonnés et qui nous abandonne toujours pas aujourd'hui. Et Jésus qui seul a la puissance pour faire de nous des adorateurs de Dieu seul. Et cet amour, le cœur de Jésus, justement, nous permet, encore une fois, de réaliser combien il est digne d'avoir notre cœur. Au contraire des idoles qui ne font que nous éloigner toujours plus de lui. Et c'est son amour, celui qu'il a pour nous et qu'il met dans notre cœur, qui nous permettra de vouloir l'adorer lui seul. Pourquoi vouloir donner l'affection de notre cœur à quelqu'un d'autre, alors que nous appartenons à un Dieu qui est si grand et si plein d'amour et qui nous connaît ? Alors oui, revenons à Dieu, demandons-lui pardon et ne regardons plus à quoi que ce soit d'autre que la gloire de Dieu manifestée en Jésus. Et on peut dire aussi que Dieu soit en tout notre tout. Amen.